Nous sommes là, 50 ans d'une Suisse migratoire, 9 rencontres, dont 2 sur la citoyenneté en Suisse romande. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce podcast faisant partie de la série des podcasts initiés par la Commission fédérale des migrations pour célébrer ses 50 ans tout en mettant en avant des thématiques liées à la migration.
Ici c'est Genève, la ville la plus cosmopolite de Suisse. Depuis l'Antiquité, il y a toujours eu au moins un tiers d'étrangers à Genève. Aujourd'hui, on dit 40%. C'est une soi-disant terre d'accueil, mais il y a une partie de la population qui vit cachée. C'est les sans-papiers, sans permis de séjour. À Genève, ils sont environ entre...
Frontaliers et sans-papiers, voilà deux réalités complètement différentes, mais suscitant pourtant le même ressentiment auprès de la population résidente suisse. Outre l'aspect migratoire lié à ces deux catégories de population, nous nous demanderons dans quelle mesure sont-ils des contributeurs économiques dans la région lémanique et quels sont les défis sociopolitiques engendrés par leur présence. Vous l'aurez compris, cette édition va mettre l'accent sur la zone géographique de l'arc lémanique qui s'étend de Genève à Montreux et qui doit faire face à un véritable boom économique, social et culturel.
Mon rôle dans le canton, déjà l'EPFL Innovation Park, ici à 300 mètres à peine, celui qui a plus de 120 entreprises, qui comprend deux incubateurs d'ailleurs, Y Park dans le nord vaudois, qui est le plus grand de Suisse en termes de surface, et puis également des technopôles spécialisés.
Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons une frontalière, Madame Laurence Vignat. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes française et vous vivez à Annecy et vous franchissez les frontières franco-suisses depuis 30 ans déjà. En face de vous, Madame Oliveira, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes brésilienne, ça fait presque 13 ans que vous vivez sans papier dans le canton de Vaud. Et juste à côté, Monsieur Philippe Vaner, qui est un expert et qui est un démographe et qui s'occupe des questions migratoires. Bonjour.
Bonjour.
À Genève, la barre des 100 000 frontaliers vient d'être franchie. Un chiffre qui a triplé en 15 ans. Le thème est donc porteur.
Bonjour.
Je vous propose donc de commencer avec deux de nos expertes du quotidien avant d'en parler avec notre expert académique, M. Vaner. Madame Oliveira, vous êtes originaire du Brésil et foulez le sol suisse pour la première fois en 2007. Vous y avez alors à peine 22 ans. Pendant 13 ans, vous avez travaillé en tant que fille au pair et femme de ménage dans le canton de Vaud. Durant cette période, vous finirez quand même par rentrer deux fois au Brésil, tant le statut de sans-papiers est difficile à vivre au quotidien. Vous êtes aujourd'hui dans le canton de Vaud, comme je l'ai dit, et pendant 13 ans, vous avez vécu avec le statut de sans-papiers. Dites-nous, comment vit-on ce statut au quotidien ?
C'est un peu dur à vivre, un peu sans une base en Suisse. Et on a toujours des gens très généreux qui peuvent nous aider, qui peuvent nous donner la main, en fait, pour pouvoir continuer à marcher, continuer à travailler, à vivre.
Vous êtes sans papier, vous êtes sans famille, mais est-ce qu'on peut quand même espérer que dans un canton comme dans le canton de Vaud, vous avez réussi à développer un réseau, des contacts, vous le dites vous-même, pour vous aider justement à vous sentir un peu mieux ?
Exactement. Des gens par qui je travaillais, en fait. Il y a des deux côtés, des gens qui acceptent les sans-papiers et des gens qui abusent des sans-papiers, en fait. Donc, ils profitent que nous sommes là. Et puis, il y a des gens vraiment qui essayent de nous aider parce que, c'est pas si grave, c'est avec sans-papiers, c'est pas si grave, c'est dans des conditions, pas très... pas très... je sais pas comment dire...
pas très juste.
Pas très juste, correct, en fait. Et puis, il y a des gens qui disent, mais ça va bien aller, ça va bien se passer, je suis là. Mais il y a des gens aussi qui profitent. Donc, on trouve de tout.
Racontez-nous un petit peu votre parcours. Vous avez toujours fait un travail comme femme de ménage. Vous avez aussi gardé des enfants. Comment ça se passe avec vos employeurs?
Oui, j'ai commencé en fait comme jeune fille au père. Et puis après, voilà, mon but, c'était toujours de garder des nouveau-nés. En fait, c'était mon travail au Brésil. Donc du coup, comme je ne connaissais pas vraiment les personnes, je ne pouvais pas montrer mon diplôme, mes certificats, mes formations et tout ça, parce que ce n'est pas reconnu. En fait, je ne suis pas allée faire reconnaître tout ça. Voilà, c'était difficile un peu d'avoir la confiance des mamans, des nouveau-nés. Donc, c'est une grande responsabilité aussi. Donc, je profitais un peu de garder des enfants un petit peu plus grands. Et du coup, voilà, on ne gagne pas assez pour garder des enfants, pour pouvoir survivre en Suisse. Donc, il faut aussi rentrer dans le monde des ménages, de jardinage aussi. Donc, il faut faire ce qui les gens nous proposent, en fait.
Votre journée commence à 6 heures, vous me disiez. Elle se termine souvent à 9 heures du soir, c'est bien ça?
Même plus tard. Donc, ça commence à 6 heures, 6 heures et quart. Et puis après, on termine vers 23 heures. Donc, ça dépend des journées, ça dépend de tout ce que les gens ils ont besoin. Et du coup, voilà, il faut toujours dire oui, parce que sinon les gens ne nous appellent plus, donc on n'a plus d'opportunités, en fait, à travailler. Donc, il faut toujours dire oui, et puis essayer de jongler un peu les choses. Voilà, samedi, dimanche, jour férié, tout ça. Les gens, ils ont vraiment besoin. Et puis nous sommes là, nous sommes là pour travailler. Donc, je ne peux pas dire, aujourd'hui, je reste avec mes enfants parce que je n'ai pas d'enfants. Aujourd'hui, je veux donner à ma famille, je veux faire un repas en famille, tout ça, donc, parce que je n'ai pas de famille. Donc, du coup, on accepte un peu par rapport à les opportunités, et puis vu qu'on gagne pas comme les gens
qui ont déjà le
papier, oui, donc on gagne un petit peu moins, donc ça veut dire qu'on doit travailler plus.
Après 20 ans de croissance, l'économie vaudoise est à un tournant. Le franc fort et la situation économique et politique mondiale défient la compétitivité des entreprises vaudoises qui n'ont jamais été aussi diversifiées, ouverte et tournée sur des activités à haute valeur ajoutée qu'aujourd'hui. Une étude publiée début février par la CVCI et la BCV le démontre.
Au cours des 30 dernières années, on a d'abord eu une forte baisse avec la crise des années 90, puis un phénomène de réindustrialisation.
L'industrie vaudoise s'est renouvelée. Entre 1998 et 2013, il s'est créé 1000 emplois supplémentaires chaque année dans le secteur secondaire.
On constate notamment là un très fort développement dans l'industrie pharmaceutique, une valeur ajoutée de quintuplée en l'espace d'une quinzaine d'années.
Est-ce que dans ces longues journées, vous subissez quand même des injustices?
En fait, la pause de midi, non jamais. Donc on mange en travaillant, donc peut-être dans le train, dans le bus, dans le trajet, pour changer de boulot. Soit en faisant le ménage, donc c'est comme ça. Et puis, donc, on n'a pas vraiment une pause, des horaires de pause.
Et lorsque vous trouvez quelque chose de très injuste, est-ce que vous avez peur de le revendiquer par peur des autorités?
Oui, bien sûr. Oui.
Comment ça se passe? Comment vous arrivez à contrôler, à ne pas revendiquer, à ne pas crier injustice?
Avant, c'était un petit peu plus compliqué parce que, en fait, j'avais peur de parler, je n'osais pas dire, demander de l'aide et tout ça. Mais une fois que j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait les choses, ouais, je peux dire que ça fait 4 ans que j'ai commencé à crier un peu et demander de l'aide à des gens. Des gens qui m'ont aidée, qui étaient toujours là pour moi, en fait. Ben, j'explique ce qui se passe et puis on essaie de trouver des solutions. Tu peux faire différemment, tu peux dire ça, ou tu peux pas avoir peur de tout le monde, en fait, parce que les gens aussi, ils font pas des choses correctes, en fait. Juste de pas nous payer les impôts, de pas payer comme il faut, donc c'est déjà pas correct, ça. Donc ça veut dire que les deux parties ont fait des fautes. Donc moi, que je suis fait engager sans être déclarée, puis la personne aussi qui me paye pas les impôts, qui me déclare pas, donc ça veut dire que... Nous sommes dans le même paquet tous les deux, en fait.
Donc, en fait, ça fait 13 ans que vous êtes dans le canton de Vaud, pas tout le temps. Vous êtes rentrée et vous êtes revenue. Oui. Vous avez chaque fois dû vous débrouiller. Vous devez énormément vous investir. Vous faites beaucoup de sacrifices pour pouvoir garder votre travail et continuer à vivre en Suisse. Lorsqu'on vous accuse de profiteur, lorsqu'on vous dit que vous êtes sans papier, vous n'avez pas le droit d'être ici, que ressentez-vous exactement?
C'est de l'injustice, en fait. Ça, tout ça, ça, ouais. ça me rendre un peu malade. J'ai eu de la dépression 2 fois et puis j'ai dû m'en sortir toute seule parce qu'ici, je n'ai pas vraiment de personne pour m'aider par rapport à la santé. Donc, il faut toujours trouver une solution. Je fais venir les médicaments de Brésil et tout ça pour pouvoir essayer de reprendre les activités. Mais en tout cas, c'est de l'injustice en fait. Je me sens vraiment mal par rapport à des commentaires que les gens y font et tout, et puis de traitements aussi.
De quoi vous accuse-t-on en fait?
Voilà, de ne pas payer les impôts. Qu'on ne paye pas les impôts, donc ça veut dire qu'on gagne beaucoup, mais on ne paye pas les impôts. Donc on va être millionnaire, on va être riche en Suisse, comme ça. Soit d'avoir pas les formations, parce que les gens, ils se mettent à faire des études et tout ça, les gens avec le papier, on va dire. Et puis moi, sans papier, je ne peux pas y aller à l'université, je ne peux pas faire des cours de formation et tout ça. Donc moi, je ne suis pas très expérimentée. J'ai pas vraiment l'expérience comme les gens qui font les études ici. Donc je suis pas diplômée en Suisse, donc ça veut dire que mon travail coûte moins cher.
Croissance de l'économie mondiale, politique axée sur l'innovation, utilisation intelligente des instruments fiscaux, mais également ouverture du marché du travail aux Européens avec la libre circulation des personnes. Pour de nombreux secteurs comme la biotechnologie, cette ouverture est vitale.
Il y a en ce moment dans les biotechnologies une guerre, il n'y a pas d'autre mot, pour attirer les talents. Et ça, c'est à l'échelle mondiale. Donc qu'est-ce qui fait que la Suisse reste un environnement attractif ?
Vous me disiez que votre journée commence à 9h du matin et il finit à 6h du matin. Oui, j'ai du mal à l'intégrer finalement. Donc, elle commence à 6h du matin et finit parfois à 9h. Et pourtant, lorsque nous avons préparé cette interview, vous me racontiez comme à quel point vous étiez active dans vos heures libres. Mm-hmm. Vous fonctionnez comme bénévole pour l'Armée du Salut, à la Croix-Rouge, ou encore pour la Soupe Populaire. Qu'est-ce qui vous motive de vous engager autant dans une société qui, finalement, vous considère comme inexistante?
C'est ça. Tout d'abord, c'est de m'en occuper des gens qui sont un peu comme moi, qui n'ont pas de famille ici, qui n'ont pas eu les mêmes opportunités que moi, en fait. C'est de donner un peu l'espoir à ces gens. Ils disent que la vie est trop difficile ici et tout ça. Mais je dis oui, mais je passais par ces chemins-là. J'ai marché par là aussi, donc je passais par là. Il faut que, il faut avoir de l'espoir. Il faut croire à quelqu'un. Il faut demander de l'aide parce que sans aide, on peut pas aller en avant. Et puis, donc c'est de rencontrer les gens, c'est d'avoir le contact avec les gens. Et puis de savoir que ils souffrent maintenant tout ce que j'ai souffert avant, tout au début. Donc c'est de donner un peu un coup de main à tous ces gens.
Des eaux turquoises dignes d'un lagon, un geyser de plus de 140 mètres de haut, une image de carte postale qui a fait la renommée du lac Léman. Niché au pied des Alpes, à la frontière franco-suisse, cet endroit d'exception bordé de stations balnéaires prestigieuses attire depuis des siècles célébrités et grosses fortunes. Comme ici, dans la ville de Montreux, réputée dans le monde entier pour ses cliniques discrètes, à la spécialité plutôt étonnante. L'une d'entre elles se cache derrière les murs de ce manoir.
Est-ce que vous avez l'impression que vous existez dans cette société qui est une société très abondante, très professionnelle, où tout le monde a un niveau de sécurité et vous, là, vous êtes tout à fait le contraire. Vous n'avez pas un salaire satisfaisant, vous n'avez aucun moyen pour vous sentir en sécurité. On ne vous reconnaît pas. Comment faites-vous pour vous sentir exister dans cette société?
Justement de rencontrer ces gens qui sont
dans le besoin. De les
aider? Oui, en fait, c'est ça. Parce que nous sommes très, très reconnus, en fait, moi et des autres personnes qui m'aident aussi. Il y a des gens qui nous reconnaissent déjà dans toutes les associations et tout. Ah, mais c'est la brésilienne qui passe pour nous aider, au fait. Donc, c'est vraiment... ouais, c'est fou, mais c'est complètement... ouais, j'ai changé un peu du côté, au fait. Avant, j'étais pas très connue. Et puis aujourd'hui, il y a des gens qui me remercient pour être là. Il y a des gens qui nous voient. Donc maintenant, je suis une personne très, très...
C'est important pour vous, l'engagement?
Oui, très important. De savoir que je suis important pour quelqu'un, de savoir que je suis important pour une association aussi, une fondation comme la Mère Sophia et tout ça. Ouais, même si on aide un tout petit peu par semaine, on fait un petit boulot par semaine, 2 ou 3 heures qu'on se donne par la Croix-Rouge aussi. Donc, sont très importants pour quelqu'un. Donc, ça me réchauffe le cœur. En fait, ça me donne envie de continuer et de faire plus en plus.
Lorsqu'on a préparé cette interview, je me suis très vite rendu compte que vous avez passé toute votre vie d'adulte en Suisse avec un statut de sans-papier. Aujourd'hui, vous avez 35 ans. Comment vous vivez cette situation irrégulière? Comment vous arrivez à vous projeter dans l'avenir, à l'avenir?
J'ai pas vraiment une réponse pour ça. En fait, c'est dans l'incertitude. On ne sait jamais ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc, on arrive à s'organiser pour la semaine. Mais après, la semaine d'après, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. Si on va être contrôlé, si on va se faire renvoyer, si quelqu'un va nous dénoncer d'être là et de travailler au noir. Ou si, voilà, si on tombe malade, après, qui c'est qui va prendre soin de nous? Donc c'est un peu l'incertitude, la peur qui domine.
Comme vous le savez, notre canton consacre beaucoup d'énergie pour encourager la création de jeunes pousses innovantes. À ce titre, nous avons la chance de bénéficier d'un tissu économique et de hautes écoles favorisant l'émergence de telles sociétés et de les accueillir au sein d'incubateurs, de parcs technologiques et d'autres structures d'accompagnement. De tels efforts trouvent leur justification dans l'espoir de voir ces jeunes pousses se développer et se transformer dans des entreprises apportant des contributions significatives en termes d'emploi et de retombées économiques notamment. Comme vous le savez sûrement, un des défis de notre canton...
Madame Vignat, vous travaillez à l'hôpital universitaire de Genève, dans le département de psychiatrie. Et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous, puisque ça fait 30 ans que vous faites l'aller-retour entre la Suisse et la France. Quelques mots sur vous. Vous êtes donc française et vivez à Annecy. Depuis 1994, vous travaillez à l'hôpital universitaire de Genève. Vous êtes diplômée de l'État français en soins infirmiers. Vous avez... compléter et renforcer votre formation aux SUG, et vous êtes aujourd'hui un maillon nécessaire au sein du département de psychiatrie, puisque vous êtes en charge de 2 services importants de ce département. Laurence Vignat, pour vous, qu'est-ce que cela implique d'être frontalière ?
Être frontalière, pour moi, n'a jamais été une finalité en soi. J'ai travaillé 10 ans sur France, dans des services d'urgence avant de venir travailler sur Genève. Je n'ai jamais eu l'envie première de venir travailler en Suisse. Nous étions à l'époque, je me souviens, une promotion de 30 infirmiers sur France et nous étions plus que 3 à travailler à l'hôpital en France. Donc j'y ai travaillé pendant 10 ans, j'ai appris mon métier sur France je dirais un malentendu avec mon employeur, j'ai décidé de venir sur Genève, en tout cas j'ai tenté, j'ai envie de dire ma chance, pour faire comme une partie de mes collègues à l'époque, et c'est comme ça que je suis arrivée sur Genève. Donc voilà, c'était pas une finalité en soi au départ.
Et comment ça s'est passé, vos débuts ?
Alors les débuts n'ont pas été évidents, parce que ayant travaillé 10 ans sur France, j'arrive sur Genève dans un autre service, et puis je suis confrontée à un autre paradigme professionnelle, une autre mentalité, une autre manière de travailler. Et il m'a bien fallu 6 mois d'adaptation avant de commencer à me sentir à l'aise, ne serait-ce que dans mon métier.
Alors, vous avez introduit en disant que être frontalière n'était pas votre objectif, et pourtant l'étiquette frontalier vous colle à la peau, à vous et à tous les frontaliers, d'ailleurs ici dans le canton de Genève. Pour vous, quels sont les préjugés, les polémiques et même parfois les propos virulents auxquels vous avez affaire au quotidien?
Alors déjà, ce que j'aimerais dire, c'est qu'être frontalier, c'est des deux côtés. C'est du côté de la Suisse, mais c'est aussi du côté de la France. Et que l'étiquette de frontalier, colle à la peau des deux côtés. Ce qui implique évidemment les banalités qu'on entend à longueur de temps, c'est-à-dire qu'on vient ici pour travailler uniquement pour chercher son salaire et qu'on vole le travail en Suisse. Donc ça, ce sont des propos récurrents. Les polémiques récurrentes, c'est que les Français viennent ici uniquement pour chercher de l'argent, qui volent le travail à la communauté genevoise, suisse, qui volent les parkings, qui prennent de la place, que la mentalité des Français, en plus, revient régulièrement comme un leitmotiv, l'arrogance, le manque de discrétion et ce genre de choses, pour lesquelles je ne m'identifie absolument pas.
Est-ce justifié ?
Je pense que ça peut l'être dans certains cas. Je pense que j'ai été confrontée à plusieurs reprises à des frontaliers français qui viennent effectivement à Genève pour chercher leur salaire et qui manquent de ce qui me semble être un manque d'adaptation et de discrétion par moment.
Monsieur Valère ?
J'imagine que c'est plutôt un préjugé. Peut-être qu'il faut dire que dans le terme de frontalier, il y a le terme frontière qui apparaît. Et probablement que la clé de la question ou du problème, c'est qu'on est une économie qui dépasse les frontières. Donc on a besoin de personnel, on a besoin d'un certain nombre de personnes dans différents domaines d'activité. Alors c'est le cas en particulier du domaine de la santé. Et ce personnel, on ne va pas le trouver à Genève. Donc on va chercher ce personnel à l'étranger, en l'occurrence, au-delà des frontières. Et c'est normal, en fait, c'est ce qui caractérise l'ensemble des centres économiques, comme le centre de Genève. Vous avez une population qui est qualifiée pour un certain nombre de domaines, mais qui manque de main-d'œuvre pour d'autres domaines. Et c'est la caractéristique des centres économiques qui sont plutôt dynamiques. Donc, dès que vous avez un dynamisme économique, vous avez nécessairement une migration qui arrive et qui concerne ces différents secteurs d'activité.
Bien sûr, c'est pas seulement les nouvelles pousses, c'est seulement les nouvelles startups qui sont là. Le terreau de la région était déjà présent. Il y avait déjà beaucoup d'entreprises avec une forte renommée internationale. On a parlé tout à l'heure, quand on parlait du PIB, on a parlé donc de la place financière. Si vous regardez ici quelques noms mentionnés de grandes banques privées, si vous regardez leur rapport annuel, vous verrez que ces banques ont retrouvé le chemin de la croissance, ont retrouvé le chemin de la croissance aussi de leurs bénéfices.
Mais pourtant, la population résidente ne semble pas encore bien avoir compris qu'il y a un besoin de main-d'œuvre.
Alors, la population résidente ne veut pas l'admettre. Mais elle en profite dans les deux cas de figure que l'on a vus. Donc, Madame Oliveira, par exemple, travaille dans la garde des enfants, ce qui permet à la population résidente, essentiellement féminine, de pouvoir sortir de ses tâches familiales pour aller exercer une activité, pour être probablement aussi plus à l'aise dans la société, d'utiliser sa formation, ses compétences. Mais malgré tout, on ne veut pas admettre que c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est la même chose avec le domaine de la santé. On l'a vu avec le Covid, où on s'est rendu compte que 50, 60, 70% de la population qui travaille dans les hôpitaux à Genève ou ailleurs, eh bien, sont des populations venant de l'étranger, souvent frontaliers pour le cas de Genève. On oublie cela. On a besoin de vous, que ce soit Madame Oliveira ou vous, Madame, on a besoin de vous pour l'économie, comme, dans un autre sens, vous avez besoin aussi certainement de la population suisse pour vous fournir du travail. Donc c'est un win-win, en quelque sorte.
Laurence Vignac.
Moi, je suis frontalière, mais je me sens tout à fait adaptée et heureuse de travailler à Genève, tout comme je suis tout à fait contente d'être française et de garder mon identité française. Genève m'a donné l'opportunité de développer ma carrière et ça, c'est vraiment quelque chose pour laquelle je suis j'ai une profonde loyauté vis-à-vis de Genève par rapport à l'évolution de ma carrière. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que venir travailler à Genève, c'est aussi, ça a un coût. Ça a un coût important en termes de qualité de vie, en termes de frais annexes, j'ai envie de dire. Et puis j'y passe quand même plus de la moitié de ma vie, hein, parce que je travaille beaucoup. Et voilà, je pense que l'expression du ressentiment contre les frontaliers est peut-être beaucoup plus important, en tout cas dans la verbalisation aujourd'hui qu'il y a 30 ans en arrière.
Oui, vous disiez qu'on assume beaucoup plus facilement les idées et les propos peut-être stigmatisants à l'égard des frontaliers.
Oui, les propos. En tout cas, j'ai l'impression que la parole s'est davantage
libérée
qu'il y a 30 ans en arrière. Ça, c'est à l'occasion de certains événements, à l'occasion des campagnes électorales, j'ai assisté à des affiches sur les bus qui m'ont juste estomaqué, je peux dire. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un mouvement entre guillemets nationaliste qui est aussi quelque chose qu'on retrouve dans tous les pays européens et que la parole s'est libérée par rapport à ça.
Votre place est agréable ou pas suivant finalement l'actualité politique, me disiez-vous ?
Effectivement, l'expression du ressentiment à l'égard des frontaliers est plus importante en fonction des événements qui peuvent se dérouler soit en France, pour ma part, soit à Genève. Je me souviens de réflexions pendant des manifestations de foot par rapport à la Coupe du Monde, par exemple, où l'éternelle arrogance française revient toujours au premier plan, des propos directement verbalisés comme quoi on espère que la France ne va pas gagner parce que ils vont pendant des semaines fêter ça et puis que ça va prendre beaucoup de place. Ce fameux manque de discrétion dont on parle régulièrement.
Ouais. Mais enfin, on parle surtout beaucoup plus des salaires, que vous prenez la place de travail des résidents. Comment est-ce que vous ressentez cette accusation qui revient finalement en boucle et qui est utilisée par certains partis d'extrême droite ?
Alors moi, j'ai une grande neutralité dans mon opinion par rapport à ça, tout simplement parce que j'apporte toutes mes compétences à la Suisse, à Genève en particulier, qui m'a offert un parcours professionnel pour lequel je suis tout à fait, pour laquelle j'ai de la reconnaissance, mais je ne vole pas mon travail, hein. Je travaille, je m'implique et j'offre mes compétences. Donc, comme vous disiez, je pense vraiment qu'on est gagnant-gagnant dans cette histoire. Je travaille dans la santé, je travaille en psychiatrie de surcroît, donc je suis fortement impliquée et fortement concernée par la citoyenneté à Genève, ne serait-ce que par mon travail. Je travaille dans les réseaux ambulatoires avec les associations, je suis concernée par la santé mentale et la souffrance, donc forcément je pense que je contribue largement à la citoyenneté à Genève.
Est-ce que lorsque chaque jour vous traversez la frontière franco-suisse et vous le dites le matin et le soir, est-ce que par moment il vous arrive de souhaiter que cette frontière n'existe plus ou simplement est-ce que vous posez la question du sens, est-ce que la frontière a encore un sens pour vous ?
Je crois que la frontière symbolise la séparation entre nos deux pays. Je me souviens, vous avez évoqué la période du Covid, qui était finalement une période assez libératoire dans le flux quotidien entre la France et la Suisse et Genève, hein, puisque finalement, il y avait une reconnaissance des soignants à chaque fois qu'on passait la douane. J'ai même des douaniers qui m'ont dit merci au passage. Hein, donc, effectivement, après ça s'est refermé, les contrôles, le temps passé et cette frontière, pour moi, elle symbolise le clivage qu'il peut y avoir entre nos deux pays, alors qu'en réalité, si elle disparaissait, ce serait signe d'intégration.
C'est pas la susceptibilité, c'est
le fait qu'un travail statistique.
À travers votre phrase, vous avez l'air de viser toute une catégorie de gens.
Ça vous fait de la peine quand je parle de délation. C'est vrai que c'est un mot difficile à encaisser.
Le problème là, c'est le connard de chef de.
Mais je ne dis pas que tous les Suisses disent ça. Ce n'est pas grave, calmons-nous.
Fin d'été à Morges et ambiance plutôt électrique pour ce débat organisé par le festival Le Livre sur les Quais.
mais il faut pas généraliser.
Non, mais attendez, je veux dire, j'ai entendu des gens, non mais c'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai recueilli des témoignages et qu'on me dit que ce n'est pas vrai, c'est quand même incroyable. Non. J'ai entendu des gens qui travaillent dans des entreprises à qui on ne laissait pas utiliser des machines parce que les Français sont sales. Alors on ne prête pas les machines aux Français parce qu'ils sont sales.
Mais c'est pas parce
alors,
que...
Alors si on dit ça d'un Tunisien, vous parleriez de racisme ?
Non, c'est pas possible. Vous êtes modérateur.
Madame Oliveira, est-ce que lorsque vous entendez le témoignage de Madame Laurence Vignat qui dit que les gens accusent très facilement les frontaliers de tous les problèmes économiques de la région et les sans-papiers aussi, est-ce que c'est le cas pour vous ?
Oui.
En 13 ans, ça a changé ? C'est de...
Oui, ça a changé. Je pense, voilà, maintenant ils ont bien compris qu'on a besoin d'être là parce que, oui, parce qu'en fait, il n'y a personne qui a envie de faire le travail qu'on fait. Donc, ouais, de travailler jusqu'à 11h le soir, de travailler même la nuit, garder un bébé la nuit ou garder un enfant le week-end pendant que les parents ils vont faire la fête. Donc, il n'y a pas vraiment les Suisses qui font ça, pas vraiment les gens en Suisse qui font. Voilà, nous sommes là pour ça, de jardinage, de déménagement, de porter les cartons et tout ça, faire le déménagement, de grand nettoyage. Donc, je pense qu'ils ont bien compris que, voilà, que nous sommes là et puis qu'on est prêts à tout faire, en fait, pour travailler.
De manière très forte, donc de recruter que des amis à eux côté français. Tous ces qualificatifs qui posent un vrai problème parce que ça donne lieu à une véritable discrimination à l'égard des Français et des frontaliers ici en Suisse, où j'ai rencontré plusieurs recruteurs, chasseurs de tête, chefs d'entreprise qui ont décidé tout simplement de ne plus engager de Français.
Quelques mots sur vous, Philippe Vanner. Vous êtes professeur et titulaire de la chaire de démographie à l'Université de Genève. Vous êtes en outre membre de la Commission fédérale pour les questions familiales et vice-directeur du programme national au NCCR On the Move portant sur la migration. Vos travaux s'intéressent à la mesure et l'analyse des phénomènes démographiques et leurs conséquences économiques, politiques et sociales en Suisse. Vous venez donc d'entendre deux témoignages représentant deux profils de population active dans la région. Quel est le dénominateur commun entre les frontaliers et les sans-papiers ?
Alors bon, d'un point de vue général, c'est une contribution économique qui est très importante, qui est même essentielle. Donc c'est évident que sans les uns ni les autres, on n'arriverait pas à avoir une économie qui fonctionne, on l'oublie souvent. Et puis, peut-être d'un point de vue plus personnel, si on se base sur les deux témoignages, il y a quelque chose qui ressort d'une manière frappante, c'est l'intégration. La capacité d'adaptation, comme l'a dit Madame Vignat, à ce nouvel environnement. Donc la Suisse, c'est quand même un pays assez spécial, Genève peut-être encore plus. Et vous arrivez à vous adapter à cette population, vous acceptez les règles, et on le voit pour la majorité des migrants. Et c'est encore plus impressionnant avec Madame Oliveira, qui parle extrêmement bien le français, qui s'intègre, et non seulement qui s'intègre, mais qui participe avec toute une série d'activités que les Suisses également abandonnent. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant, et j'ai envie, si vous me permettez, d'aller un petit peu plus loin, de dire que on a ici deux catégories de personnes ou de migrants, deux contributions qui sont, on va dire, atypiques par rapport à la politique migratoire qui favorise des personnes plutôt hautement qualifiées qui viennent s'installer, donc cette migration de compétences qu'on va chercher des managers, etc. Mais moi, je suis pas sûr que ces managers, ces cadres supérieurs soient aussi bien intégrés que les personnes qu'on a autour de notre table. Donc ça remet en question peut-être les politiques, non seulement d'intégration, mais aussi la politique qui veut qu'on favorise une migration au détriment d'autres migrations, sans se poser la question quelle est celle qui est la plus harmonieuse pour la Suisse, pour la population suisse, et quelle est celle qui est aussi la plus utile pour l'économie.
Est-ce que ce sont deux catégories de migration, migrants un peu invisibles, dira-t-on, et qui deviennent visibles que en cas de crise économique ?
Oui, alors, bon, c'est deux catégories de migration qui sont quand même très différentes, dans le sens où la population frontalière, il y a des statistiques dessus, Et c'est vrai que le nombre de frontaliers a augmenté d'une manière extrêmement rapide.
Oui, un tiers de la population active à Genève est frontalière,
voilà,
d'ailleurs.
Voilà, tout à fait. Donc là, c'est une population qui est extrêmement visible, peut-être plus visible qu'elle ne devrait l'être, et qui attire toute une série de stigmatisations. Pour ce qui est le cas de la population sans papier, eh bien, c'est un petit peu différent, parce que le phénomène était beaucoup plus marqué à la fin des années 1990, où vous aviez non seulement des personnes provenant des pays non communautaires, mais vous aviez aussi toute une communauté portugaise qui était sans autorisation de séjour. C'était beaucoup plus visible, et le phénomène a été en quelque sorte, on va dire, diminué par l'ouverture des frontières, donc par la libre circulation des personnes. Et aujourd'hui, je pense que depuis une dizaine d'années, on a laissé un petit peu de côté cette problématique sur le point de vue politique, d'autant plus que ça concerne des régions bien précises, c'est Zurich, c'est l'arc lémanique, c'est éventuellement Bâle, etc., Berne, des centres économiques qui savent qu'ils ont besoin de cette population. Donc on les tolère en quelque sorte. Maintenant, c'est vrai que encore une fois, l'actualité avec le Covid, on a vu apparaître ces files de personnes qui étaient les premières victimes économiques du Covid, et ça de nouveau attisé un petit peu les critiques par rapport à cette population. Mais à mon avis, elle est relativement bien acceptée dans sa globalité, également d'un point de vue politique. On l'a vu avec Papyrus, qui est quand même une ouverture assez intéressante. Parce que on sait que c'est une minorité qui ne dérange pas, et au contraire, comme vous l'avez dit, parfois, je pense que certains abusent beaucoup et savent qu'ils peuvent abuser de cette population.
C'est votre femme de ménage, votre nounou, votre jardinier, la personne qui veille sur vos parents, l'homme qui construit votre maison. Des travailleurs sans visage, faute de permis de séjour, et tout à coup, ils surgissent de partout. Toutes ces personnes font partie des 13 000 sans-papiers qui vivent cachés à Genève. Ils sont là pour un moment historique.
Sur la façon dont va se dérouler cette opération Papyrus.
Une semaine plus tôt, le conseiller d'État Pierre Maudet a lancé l'opération Papyrus, un projet pilote qui vise à régulariser une partie de ces clandestins.
Nous avons besoin des étrangers, c'est dans l'ADN genevois, et je me plais à le rappeler extrêmement régulièrement.
C'est une petite révolution.
Vous évoquiez justement auparavant le grand nombre de frontaliers qui parfois est trop visible dans la région lémanique. Le boom économique de l'arc lémanique donne parfois l'impression quand même de n'être ni coordonné ni planifié, et ce au détriment de la population résidente. Qu'en pensez-vous ?
Alors oui, c'est vrai que le boom économique nous a surpris. C'est en partie, on va dire, à cause d'un certain nombre de phénomènes qui sont migratoires, c'est-à-dire en particulier la libre circulation des personnes a permis de faire venir des cadres supérieurs, etc., qui sont générateurs de richesses. Donc il y a une croissance démographique qui accompagne la croissance économique et qui est une croissance, on va dire, exogène, l'arrivée d'un certain nombre de personnes. En même temps, cette croissance économique, elle est bienvenue et elle repose sur ces flux migratoires qui sont spécifiques. Donc on a des politiques migratoires pour faire venir des cadres, mais on n'a pas de politique migratoire pour faire venir celles et ceux qui sont peut-être les plus importants, notamment les services domestiques, les services de la santé, et puis il y a d'autres domaines aussi qui sont concernés. Donc c'est un petit peu ça le paradoxe de l'économie, c'est qu'on accepte de gagner plus d'argent, mais on ne veut pas faire l'effort d'accepter les conditions pour qu'il faut qu'on s'enrichisse en quelque sorte en tant que société.
Mais comment expliquer que cette population résidente a du mal à accepter, à comprendre ? On a beau expliquer qu'on a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, on nous dit mais pourquoi on n'investit pas dans la politique dans une politique de formation plus large ? Pourquoi ne forme-t-on pas sur place ? Pourquoi il y a toujours ce besoin de faire venir d'ailleurs une main-d'œuvre qualifiée pour le cas des frontaliers ?
Alors, moi je dirais que la caractéristique d'un migrant ou d'un frontalier, c'est qu'elle dispose, cette personne dispose au moment où on en a besoin des compétences que l'on recherche. C'est-à-dire que dans le domaine, par exemple, de la santé, si vous avez besoin d'un spécialiste de la santé psychique, vous savez qu'il y en a à l'étranger, que ce soit en France ou ailleurs. Donc vous pouvez aller en chercher, les faire venir, parce qu'on est un pays qui a une économie qui est compétitive, des salaires qui sont intéressants. S'il faut former ces personnes, bien, ça prend facilement 15 ans. Donc voilà, c'est une sorte de situation un peu opportuniste. C'est vrai que depuis quelques années, dans certains secteurs d'activité, ça peut être l'informatique, ça peut être le domaine de la santé, etc., et plus encore dans le domaine des services domestiques, eh bien, c'est une utopie que de vouloir lancer en quelque sorte des formations qui permettraient par la population native de combler les lacunes. Donc il faut l'accepter.
Je souhaitais apporter un bémol à ce que vous disiez par rapport à la formation, en tout cas dans le domaine de la santé, parce que pour ma part, toute mon évolution professionnelle s'est effectuée grâce à la formation proposée par la Suisse. Je suis arrivée simple infirmière, j'ai pu bénéficier d'un planning de formation sur toutes ces années qui me permettent d'avoir le poste que j'ai aujourd'hui, raison pour laquelle, et sans démagogie aucune, je suis extrêmement reconnaissante à la Suisse de pouvoir travailler dans mon poste actuel. Voilà, donc ça pour moi c'est important, peut-être parce que je travaille au HUG, mais en tout cas la formation permanente à Genève, en tout cas au HUG, est extrêmement développée. Puis autre chose, par rapport à l'anticipation pour les écoles d'infirmières, les promotions actuelles n'ont plus rien à voir avec celles d'il y a quelques années en arrière. La Suisse essaye de plus en plus de former des jeunes infirmières. Elles sont nombreuses à sortir chaque année, raison pour laquelle d'ailleurs on embauche de moins en moins d'infirmiers frontaliers. Je veux dire, ça s'est équilibré ces dernières années et je crois que ça a été anticipé en réalité. Simplement, la profession absorbe un grand nombre de professionnels hein, et que le tournus fait qu'il y a des besoins supérieurs à la possibilité, entre guillemets, de produire, j'ai envie de dire.
Il faut voir ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez des États qui viennent faire du démarchage. Il y a des conseillers qui viennent présenter, par exemple, Singapour, par exemple, Dubaï, par exemple, même Londres. Et on ne parle pas de places exotiques. On parle maintenant d'une concurrence frontale, ou même les États-Unis maintenant. Avec le
plan. Monsieur Vanner, est-ce que ça signifie qu'on a besoin d'une politique qui traverse la frontière de cette région, une politique un peu plus régionale qui inclurait la France voisine?
Voilà, la politique régionale existe déjà. Vous avez Grand Genève, vous avez toute une série d'initiatives, en particulier sur les transports, sur l'aménagement du territoire.
Est-ce que c'est suffisant?
Non.
Puisqu'on voit tout de même certains partis à chaque occasion pointer du doigt les frontaliers.
Oui, mais là encore, je pense que c'est une question du bouc émissaire. C'est-à-dire qu'on va pointer du doigt la personne qu'on va considérer faible parce qu'on a des revendications et tout cela, mais ça n'a rien à voir avec la qualité du travail des frontaliers, ça n'a rien à voir avec la migration. Les problèmes qui émergent à Genève sont des problèmes qui sont spécifiques à Genève. Il y a toute une série d'efforts qui sont faits pour essayer de construire une communauté autour du Grand Genève, c'est-à-dire une communauté transfrontalière, d'un côté en direction de la France, mais aussi, c'est le même problème en quelque sorte, en direction du canton de Vaud. Et je pense que la réalité politique, est là en fait. On a besoin de ces échanges interfrontaliers ou transfrontaliers. Donc ça, c'est une évidence.
On connaît la Suisse comme un pays calme et safe. Et pourtant, certains habitants vivent sous tension permanente, particulièrement les sans-papiers. Ils peuvent être arrêtés et renvoyés à tout moment. Comment obtenir un permis de séjour et sous quelles conditions? On va essayer de comprendre à quelles perspectives peuvent se rattacher les sans-papiers.
Madame Oliveira, vous travaillez généralement pour les familles de classe moyenne. Est-ce que vous avez l'impression que ça arrange leurs affaires que d'employer une personne de sans-papiers ?
Oui. Donc c'est plus simple d'engager deux ou trois personnes sans papiers, de prendre une femme de ménage, une femme pour garder les enfants, sans papiers, ça coûte moins cher que qu'engager une autre personne déclarée, tout ça, donc à payer aussi les assurances et tout ça. Donc pour nous. Donc oui, je pense que je mérite en fait. Je mérite d'être là. J'apporte quelque chose aussi parce que les enfants sont bien avec moi. En fait, tous les mamans qui me disent, mais c'est une autre éducation, une autre, c'est un autre rythme de vie aussi. Vous apportez plein de choses aux enfants et puis c'est bien d'avoir une Brésilienne qui garde ses enfants, qui garde en fait les enfants et puis il y a une autre chaleur et puis il y a une autre style de vie en fait.
Et vous n'avez aucune exigence.
Non. C'est ça.
Monsieur Valère, lorsque vous entendez le témoignage de Madame Oliveira, on constate qu'elle est une experte en fait en économie puisqu'elle répond parfaitement aux exigences dites ultralibérales, dans le sens où elle assume seule à la fois les charges et aussi les risques de son activité. C'est un petit peu l'employé idéal. C'est parfait pour la Suisse.
Oui, mais encore une fois, c'est une situation qui est parfaite pour la Suisse, mais pas pour Madame Oliveira. Et je pense qu'en fermant les yeux, en oubliant de lui donner un permis, eh bien, on profite vraiment de cette situation.
C'est un peu les nouveaux saisonniers?
Alors, les saisonniers, ils avaient un permis, donc c'était un peu différent, mais ils avaient relativement peu de droits, en particulier de droits en termes de familiaux, en quelque sorte, de regroupement familial. Je pense que le permis saisonnier était quand même plus humain que l'absence de permis. C'est
clair. Conférence de presse très attendue à mi-parcours, presque un an jour pour jour après le lancement de l'opération.
Quand on voit les situations particulières de ces gens, la victoire pour eux et pour nous, c'est de voir qu'ils arrivent à surmonter la peur. Et finalement, c'est aussi le rôle de l'État de permettre à ceux qui sont les plus vulnérables dans notre société de diminuer cette vulnérabilité, de faire en sorte, pour reprendre un slogan, que la peur change de camp. C'est pas facile. On l'a vu en début d'année, après l'annonce, beaucoup de gens, vous l'avez dit, il y avait des rumeurs, des doutes, etc. Mais la satisfaction de voir qu'il y a une confiance dans le dispositif, avec la société civile, avec la Confédération, avec l'État, c'est une immense satisfaction et un message extrêmement positif par les temps qui courent en matière de questions migratoires.
Nous profitons donc d'une certaine manière de ce statut des sans-papiers pour justement se libérer de toutes les des obligations que nous aurions en tant qu'employeur envers un employé. Est-ce que c'est le cas aussi pour les frontaliers? Par exemple, Madame Vigna, on dit souvent que les Français, lorsqu'ils arrivent ici, ils sont prêts à accepter des salaires plus bas, qu'ils sont prêts à accepter des conditions beaucoup plus difficiles pour avoir accès à l'emploi. Et quelque part, on finirait par aussi profiter de cette situation.
Je ne me reconnais pas dans cette situation. Moi, je travaille dans une grande entreprise, je suis fonctionnaire et j'ai un salaire équivalent aux soignants suisses qui sont genevois et suisses. Hein. Donc, je ne me reconnais pas dans cette situation. Je ne me sens pas abusée. J'ai plus le sentiment, finalement, je donne beaucoup de ma personne et de mes compétences que j'ai pu développer ici et je reçois dans les deux. J'ai vraiment l'impression d'une réciprocité.
Le défi aujourd'hui consiste donc avant tout à maintenir un marché du travail ouvert tout en restant compétitif sur le plan fiscal. Quant à la problématique du Francfort, elle demeure évidemment cruciale, même si les entreprises savent faire preuve d'adaptation.
Le Francfort, c'est un élément...
Est-ce que nous sommes, peut-être Monsieur Vaner, nous avons évoqué le boom économique de l'arc lémanique, où en sommes-nous vers la fin, on est vers la fin de ce cycle?
Alors, je ne suis pas devin, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de difficultés qu'on observe aujourd'hui liées à la situation sanitaire qui pourrait péjorer l'économie, ça c'est clair. Il pourrait y avoir aussi toute une série de facteurs conjoncturels qui conduisent à une diminution de l'employabilité des personnes. Ça c'est évident. Et c'est clair que l'expérience suisse nous a montré que lorsque il y a moins de travail, il y a moins de migrants, et il y a éventuellement même une exportation du chômage ailleurs. Mais pour les deux participantes, je ne pense pas que ça soit le cas, parce qu'on aura toujours besoin de personnel infirmier, d'une part. Et puis, on est plutôt dans une tendance où on a besoin aussi de personnes pour s'occuper des enfants. Donc, je pense que vous pouvez être assurés par rapport à ça.
Disons que moi j'ai la chance de travailler pour l'État dans une grande institution dans laquelle je travaille depuis 30 ans. J'ai donc un statut de fonctionnaire. Je ne pense pas que mon emploi risque quoi que ce soit, sauf si je suis fait une faute, ça c'est autre chose. Mais autrement, je n'ai pas d'insécurité par rapport à un éventuel licenciement.
Il faut le rappeler, votre compétence est essentielle pour la région.
En tout cas, elle est suffisamment importante pour que j'occupe le poste que j'ai aujourd'hui.
Madame Oliveira, est-ce que vous avez ce sentiment que si la demande baisse, vous risquez vraiment de plus pouvoir travailler et devoir partir ?
En fait, je n'ai pas vraiment peur de ça. Parce que je sais qu'il y a des enfants, des mamans qui accouchent tout le temps. Donc, il y a toujours des mamans qui t'envoient.
Ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, c'est une bonne nouvelle, en fait. Moi, je risque pas de rester sans travail. Et puis, il y a toujours une maman qui a besoin d'un coup de main, en fait. Donc, non, j'ai pas peur de ça. J'ai un peu peur aussi de changement de loi. En fait, s'il y a des contrôles beaucoup plus rigoureux, en fait, je pense que ça me fait un petit peu plus peur.
Un durcissement.
Oui. En fait, là, oui, ça, c'est vrai que voilà, si on tombe malade et puis on doit aller chez le médecin et puis là, on en a un contrôle et puis d'y aller à l'hôpital, qu'on doit montrer un document et puis que là, on aura un contrôle, oui, ça, j'ai un peu peur, mais de rester sans travail, non, parce que je sais qu'il y a toujours de la place pour nous.
Ce sera donc le mot de la fin, il y aura toujours de la place pour nos invités. Merci à Laurence Vignat, merci à Madame Oliveira et merci à Monsieur Philippe Vanner d'avoir partagé avec nos éditeurs vos témoignages, votre expérience et votre expertise. Nous sommes là, 50 ans d'une Suisse migratoire, 9 rencontres. Un podcast à l'occasion des 50 ans de la Commission fédérale des migrations, épisode 7. Ce podcast est diffusé sur Spotify, Apple Podcasts et sur le site de la Commission fédérale des migrations. C'était une production réalisée par Podcast Lab pour le compte de la Commission fédérale des migrations et modérée par Viosa Gervalin.